Au chapitre des faits divers, un accident mortel cette nuit sur les routes calédoniennes à Pointe-d'Imier. L'homme qui était seul dans son véhicule a percuté un arbre. C'est le jour J, la fête des mères ce dimanche, l'occasion de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans et de les gâter avec des cadeaux. Christopher Gigès parle d'un petit frémissement de l'économie, il l'a dit dans le magazine Transparence vendredi, extrait dans ce journal. L'actualité nationale, plus de 150 personnes rassemblées à Paris pour un ultime cri d'alerte. Deux textes, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir, seront soumis au vote des députés ce mardi. À l'international, le Royaume-Uni divise par deux ses flux d'immigration en un an, un chiffre dévoilé par l'ONS, Office National des Statistiques. Le sport du rugby, l'Union Bordeaux-Bègles a décroché le titre de champion d'Europe cette nuit, c'est la première fois dans l'histoire du club. Et puis le foot en Calédonie, la Super League se poursuit. Une particularité cette année pour le SC Nejeu, le club ne peut plus jouer sur son terrain de Lifou. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et à la une de l'actualité, les chapitres des faits divers. Un nouvel accident mortel sur les routes calédoniennes à Pointe-d'Imier cette nuit sur la transversale Kone-Tiwaka. Un homme qui était seul dans son véhicule a percuté un arbre. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Cet accident qui porte donc à 14 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. Et puis un cas de violence familiale aussi cette nuit au Mont-d'Or. Il s'agit d'un couple alcoolisé à Saint-Michel, parent de jumeaux de 7 mois, qui était en train de se disputer. La jeune femme a donné un coup de couteau au niveau du cou de son conjoint. Il a été évacué au Médipôle, mais ses jours ne sont pas en danger.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
C'est aujourd'hui, dimanche donc, la fête des mères. L'occasion déjà de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Les enfants qui ont préparé cette fête, comme à l'école notamment Daniel Mathieu de Boulou-Paris, qui avait organisé mercredi dernier sa traditionnelle fête des parents. Kélinda Boicou était sur place. Elle a pu rencontrer les élèves qui ont préparé un poème pour leur maman. Écoutez Serena, elle est en CE1.
A comme amour, B comme bisous, C comme câlin, D comme drôle, et E comme extraordinaire, F comme fête, et je passe toutes les autres lettres pour arriver à la plus chouette, P comme parent. Bonne fête maman.
Une fête des mères qui est pour beaucoup d'entre vous une date incontournable. De nombreuses personnes ont décidé aujourd'hui de gâter leur maman, en croire ces témoignages recueillis au marché municipal de la Moselle à Nouméa.
J'ai fêté une bonne fête à ma mère.
On est venu acheter des huîtres, des crevettes pour notre mère, parce qu'elle aime bien les fruits de mer.
Ça s'est bien passé, les cadeaux, les surprises, les bisous bisous, les câlins câlins. Surtout ça vient du cœur des enfants, donc ça fait plaisir.
Je me suis réveillée, puis j'ai dit bonjour à ma mère relativement.
On a eu le petit déjeuner et les petits cadeaux. Ça va, on suit le papa pour voir ce qu'il va nous préparer.
C'est ça la surprise?
Oui, voilà.
Repas familial, ouais. Convivialité, toujours. Voilà. Mais voilà, toujours au centre. L'attention, c'est la mère, quoi. La maman, hein. Faut pas l'oublier.
Ben, pour ma mère, ça a été des boucles d'oreilles, des choses normales, quoi. Toujours avec le cœur.
J'ai une maman de 4 enfants.
Qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui?
Ben, ils ont prévu de faire un repas avec leur père, de faire un petit repas ce midi-là.
C'est vous qui choisissez le menu?
Non, c'est eux.
Ah, c'est eux?
Oui.
Ah, bon. Ils vont faire ce qui vous plaît le plus, j'espère?
Ben, ils savent ce que j'aime.
Voilà pour ces témoignages ce matin au micro de Michael Juneski au marché de Nouméa. Les mères sont donc à l'honneur aujourd'hui, on ne cesse de le répéter et on reste du côté de Boulou-Paris où nous étions tout à l'heure à l'école Daniel Mathieu, puisque la famille Amiot est très présente ce dimanche autour d'Angèle Coimpy. C'est la petite histoire du jour pour parler d'une maman pas comme les autres, Michael Juneski.
En effet, mère de 12 enfants, Angèle Coimpy s'est mariée à William Amiot et de ce mariage sont nées 7 filles et 5 garçons. Par ailleurs, aujourd'hui, ils ont, à eux tous évidemment, donné à Angèle Coimpy 33 petits-enfants et même déjà 3 arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, à 60 ans, Angèle Amiot est heureuse. Pour elle, avoir une famille nombreuse, c'était quelque chose de voulu car son mari est fils unique. On écoute Angèle Coimpy.
J'ai 12 enfants, c'est voulu parce que mon mari n'avait pas de frères et sœurs et voilà, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'enfants, j'ai fait 12 enfants. J'ai élevé mes enfants avec le champ, culture ouvrière, planté les bananes, manioc, igname, taro.
Est-ce que ça veut dire que les aînés vous ont aidé? Est-ce que c'est des enfants qui sont nés avec des écarts d'années entre eux? Comment ça s'est passé?
Les premiers se suivaient les années, et puis après c'était des écarts des derniers enfants. Oui, les aînés ont aidé les petits qui suivaient après.
Pour elle, ce mariage a été une réussite et ses enfants, petits-enfants et maintenant arrière-petits-enfants sont sa joie de vivre. On retrouve Angèle Amiot.
Je suis fier d'avoir mes enfants, mes arrière-petits-enfants. Quand il y a des événements ici à la maison, ben ils sont tous là avec moi. C'est pour ça que c'est une grande fierté pour moi. L'année dernière, j'ai fêté mes 60 ans, ils étaient tous là. Et dimanche, pour la fête des mamans, ils seront tous là aussi. Oui, il y aura un repas spécial. C'est les papas qui vont faire la cuisine. Bonne fête à toutes les mamans de la Nouvelle-Calédonie.
Voilà pour une maman comblée dans une famille très nombreuse. Angèle Amiot, née Coimpy, qui célèbre aujourd'hui, donc entourée de tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, la fête des mères.
Christopher Gigès parle d'un petit frémissement de l'économie, un an après le début des violences insurrectionnelles qui ont dévasté la Nouvelle-Calédonie. Il l'a dit dans le magazine Transparence, dont il était l'invité vendredi midi. Il avait été interrogé par Elisabeth Noir sur l'accord économique, fiscal et social qui a été signé le 12 mai dernier. Jean-François Baudin.
L'accord cadre sur les réformes économiques, fiscales et sociales signé après la conférence fiscale et sociale qui s'est réunie du 22 au 25 avril avec la participation de tous les partenaires sociaux. Cela a été possible parce que l'on n'a pas essayé d'imposer un document à ses partenaires, tacle d'emblée Christopher Gigès, qui relève que tout le monde a fait un pas vers les autres. L'objectif, c'est de construire un nouveau modèle économique, fiscal et social, de s'attaquer à la structure et au niveau des prix et de favoriser l'emploi et l'insertion. Cela fait beaucoup de chantiers, mais on n'a pas le choix, affirme le membre du gouvernement en charge de l'économie.
Est-ce qu'on a le choix de ne pas mener tous ces chantiers de front et encore bien d'autres? Enfin, il y a la question de la rétablissement des comptes sociaux et des comptes publics. On travaille avec Thierry Santa, avec Alcide Ponga, avec Samuel Népéon et avec tous les autres membres du gouvernement, Claude Gambet, sur la question de la santé. On n'a pas le choix de travailler jusqu'à la dernière heure de notre mandat sur ces sujets parce qu'il faut rétablir la Nouvelle-Calédonie. On a quelques signaux qui deviennent positifs, mais tous ces sujets doivent être abordés de front.
Plusieurs mesures issues de cet accord vont être présentées dans les prochaines semaines au gouvernement, puis au Congrès. Christopher Gigès évoque notamment le chômage partiel spécial exaction qui devait s'éteindre en août 2024 et qui, au terme de longues négociations, a été prolongé jusqu'en juin 2025.
Il s'arrête en juin et l'État nous avait dit il faut que vous augmentiez le chômage de droit commun. Et donc, les partenaires sociaux, après discussion, ont dit non, on ne va pas faire une augmentation du chômage de droit commun, on va plutôt faire un dispositif qui permet de favoriser le maintien et le retour à l'emploi. L'idée, c'est de ne pas payer des chômeurs, l'idée, c'est de remettre les gens au travail ou de les maintenir au travail. Donc, avec une allocation spécifique qui maintiendra les gens au sein de l'entreprise, avec un dispositif spécifique, mais également une exonération de charges patronales d'ici la fin de l'année et d'autres dispositifs qui ont été travaillés avec mes collègues sur le renforcement de l'apprentissage, le renforcement de la reconversion à la fois salariale, mais également en entrepreneuriat, puisqu'il y a certains salariés qui souhaitent pas forcément redevenir salariés. Il y a un esprit pionnier en Nouvelle-Calédonie, il y a un esprit d'entreprendre en Nouvelle-Calédonie, et on souhaite accompagner ces gens-là.
Parmi les objectifs, l'amélioration du pouvoir d'achat des Calédoniens et certaines dispositions seront prises dès la semaine prochaine.
On passera la semaine prochaine l'élargissement de 15 à 60 des produits de première nécessité. C'est un soutien de 600 millions pour le pouvoir d'achat. Il est hors de question, et je l'ai dit aux entreprises, que ces 600 millions soient captés en marge. Il faut que ces 600 millions agissent sur la baisse des prix parce qu'on a une détresse de pouvoir d'achat aujourd'hui. Je présenterai aussi avec les différents partenaires différents accords interprofessionnels pour baisser les prix dans les grandes surfaces. Et je crois qu'il y a une logique à ce que les prix baissent en Nouvelle-Calédonie et qu'on arrive à remettre de l'emploi et à ce que cet emploi soit mieux payé.
La priorité également pour aider à la reprise de l'économie, la simplification de la vie des entreprises.
Il faut aussi qu'on aide les entreprises, qu'on accompagne les entreprises, qu'on simplifie la vie des entreprises. Je pense que la baisse de l'impôt sur les sociétés est importante. Quand on voit que la Polynésie française a un taux d'impôt sur les sociétés à 25%, quand nous on est à 30% et que la Nouvelle-Zélande elle est à 19% et que l'Australie est à 25%, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus attractif et qu'on simplifie la vie. Enfin, quand je vois le parcours administratif pour la vie des entreprises, mais c'est gargantuesque. On passera très prochainement aussi un texte pour mettre un registre unique et que les entreprises n'aient pas à contacter l'ISE, la CCI, la CAFAT, la CMA. Enfin, simplifions, simplifions.
Et Christopher Gizès relève que l'expérience prouve que lorsqu'on baisse l'impôt sur les sociétés, il y a un rendement supplémentaire parce que les entreprises créent de la richesse. Mais Christopher Gizès annonce la création de la taxe sur les prestations extérieures, une taxe qui concerne les entreprises qui ne sont pas installées localement. L'accord cadre prévoit aussi plus de transparence économique et un audit a été lancé sur les protections de marché en vue de les rationaliser, souligne Christopher Gizès.
On doit baisser nos dépenses publiques, on doit améliorer notre système. Il y a un plan d'évolution de l'administration qui est mis en place. On doit faire des fusions de nos établissements publics, de nos directions, réduire la masse de fonctionnaires et d'agents publics sur le territoire. Et on a des dispositifs sociaux aujourd'hui qu'on ne peut plus assumer. On a eu une baisse du PIB d'entre 15 et 20 %. Ça a été dit par le Sérum il y a quelques temps. Donc ces réformes, elles sont indispensables et on suit l'État sur ça. Par contre, on ne suit pas l'État quand il nous demande d'augmenter la pression fiscale. Augmenter la pression fiscale n'est clairement pas la solution aujourd'hui.
Dans ce contexte, interrogé sur la situation de l'économie calédonienne, Christopher Gizès parle d'un petit frémissement.
Il y a un frémissement. Il n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on souhaite, mais quand on a eu 15% du PIB qui a été détruit et avec un choc moral sur des entrepreneurs et des salariés, on ne peut pas arriver forcément à tout rétablir tout de suite, mais on voit le frémissement qui arrive, on voit des bonnes nouvelles qui sont quand même là. Enfin, le retour d'Air New Zealand, ça paraît anodin, mais Air New Zealand, normalement, il ne devait pas revenir avant courant d'année 2025. Mais ils ont vu qu'il y avait de la reprise, ils ont vu qu'il y avait des conditions sécuritaires qui s'amélioraient en Nouvelle-Calédonie. On a des assurances qui commencent à vouloir revenir aussi en Nouvelle-Calédonie, j'en rencontrerai prochainement à Paris pour en faire revenir d'autres et pour qu'on élargisse le risque, pour que les personnes soient assurées, parce que c'est pas encore suffisant sur cette partie-là. Enfin, en tout cas, on n'y croit pas par méthode couée, on y croit parce qu'on commence à avoir des personnes qui souhaitent reconstruire, des personnes qui souhaitent investir, des investisseurs extérieurs qui souhaitent réinvestir en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a une catégorie de la population qu'on oublie souvent, c'est ceux qui n'ont pas brûlé. On a beaucoup agi et c'est normal pour ceux qui ont brûlé, mais il y a des entreprises qui ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires et il faut qu'on arrive à les accompagner du mieux qu'on peut. Enfin, en tout cas, on met toute notre énergie pour ça.
Au chapitre de l'avenir institutionnel, enfin, le membre du gouvernement en charge de l'économie félicite la délégation des partisans de la France pour avoir refusé le projet d'indépendance association de Manuel Valls et il fustige certains propos du ministre des Outre-mer.
Il y a aussi les termes qu'il a utilisés, sans accord le chaos, sans accord la guerre civile. Mais enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est des termes qui viennent casser le moral des entrepreneurs. Tout le travail qu'on fait au jour le jour pour faire reprendre l'activité économique, avec ces termes-là, ça vient le détruire. Parce que en réalité, sans accord, il n'y a pas de modification constitutionnelle, il n'y a plus de référendum. Donc, on continue sur les termes de l'accord de Nouméa et on mettra en place les différents dispositifs fiscaux, les différents dispositifs de soutien à l'économie en lien avec les provinces et notamment la province sud récemment pour soutenir les entreprises, pour soutenir les salariés, pour soutenir la population. Mais si Manuel Valls veut faire un coup de pub politique sur le dos de la Calédonie, enfin, en tout cas, on lui donnera tort.
Et Christopher Gizès reproche à Manuel Valls d'avoir commis une erreur politique majeure.
Une interview de Christopher Gizès qui sera rediffusée ce soir juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible dès à présent en audio et en vidéo sur notre site internet le www.rrb.nc. Midi passé de 13 minutes, on marque une première pause dans ce journal avant de voir tout ce qui fait l'actualité en métropole et dans le monde.
Des problèmes de termites de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termite. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Info Weekend. On retrouve Léo Fichou.
En métropole, plus de 150 personnes rassemblées devant l'Assemblée nationale pour un ultime cri d'alerte. Le débat sur la fin de vie sont clos. À l'Assemblée, deux textes, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir, seront soumis au vote des députés ce mardi. Alors, ceux qui se font appeler les éligibles, des personnes lourdement handicapées ou atteintes de maladies dégénératives, se sont rassemblés pour alerter, témoigner de la pression qu'ils subiraient si le texte était voté en l'état. Edwige, 56 ans, est atteinte de la maladie de Parkinson et elle décrit une double condamnation en cas d'autorisation de l'euthanasie. On l'écoute.
Pour moi, ça signifiera un deuxième combat. Le premier combat, c'est celui de la maladie, puisqu'en fait, une maladie de Parkinson, c'est la perte de motricité, la perte d'équilibre, la perte de la voix également. Et là, on me rajoute un deuxième combat, c'est celui du regard culpabilisant de la société. Parce que dès lors qu'une loi est votée, ça veut dire qu'elle a un caractère moral. Si la morale, c'est d'euthanasier les gens, choisir la vie lorsqu'on est malade, ça sera considéré comme un acte immoral. On n'a pas besoin de ça parce qu'on a déjà la tête sous l'eau avec notre propre maladie à gérer qui, en plus, évolutive est incurable.
La réaction d'Edwige, atteinte de la maladie de Parkinson et membre du collectif Les Éligibles, éligible au texte sur l'aide au droit à mourir. Dans l'actualité nationale également, les fédérations de taxis reçues au ministère des Transports en présence de François Bayrou pour tenter de mettre fin à la colère des chauffeurs sur la refonte du système de tarification du transport de malades. Le Premier ministre François Bayrou a déclaré à l'issue de 3 heures de réunion qu'il allait, je cite, « retravailler dans les semaines qui viennent le détail des mesures qu'il faut prendre ». Fin de citation. La suite du mouvement sera décidée dans les prochaines heures. Et après les taxis, ce sont les agriculteurs qui pourraient prendre le relais des blocages dès ce lundi. La FNSEA s'oppose à certains amendements de la loi agricole déposée par les députés. Une loi qui entend lever les contraintes qui encadrent leur métier. Mais ils regrettent, ces agriculteurs, que certaines mesures qu'ils jugent capitales, notamment sur la question des réserves d'eau, aient été supprimées. L'actualité en métropole, c'est aussi cette panne d'électricité dans le sud-est qui a privé plus de 160 000 foyers. Une panne liée à 2 actes malveillants. 2 enquêtes ont été ouvertes par les parquets de Grasse et de Draguignan. Et au 78e Festival de Cannes, la projection d'un film a été interrompue. Mais la cérémonie de clôture a pu se dérouler sans encombre. Une cérémonie qui a pu enfin livrer son palmarès avec une palme d'or attribuée à l'Iranien Jafar Panahi pour son film « Un simple accident ». A noter également que le prix d'interprétation féminine est allé à la française Nadia Meliti pour son premier rôle dans La petite dernière d'Apsia Herzi. L'actualité internationale maintenant, le Royaume-Uni qui divise par 2 ses flux d'immigration en 1 an pour l'année 2024. Selon l'ONS, l'Office national des statistiques, le Royaume-Uni a diminué de moitié leur immigration nette, à savoir la différence entre le nombre d'émigrants et le nombre d'immigrants. Chute spectaculaire revendiquée par le gouvernement anglo-saxon qui se félicite d'un résultat issu d'une politique de restriction. Maïalène Trémollet pour Europe 1.
Oui, en chiffres, cette baisse est colossale puisque le pays passe de 860 000 à 431 000 personnes en 12 mois. Mais alors, quelle part de l'immigration est directement concernée par ce phénomène ? D'abord, une majeure partie des flux migratoires liés au travail qui ont chuté de 49%, ou encore la part des étudiants internationaux qui baisse, elle, de 17%. Concrètement, l'ONS constate aussi une diminution très significative des arrivées de pays extra-européens. Et cette baisse majeure tombe à pic pour le Premier ministre britannique, Starmer, qui s'était engagé publiquement début mai à restaurer le contrôle migratoire et qui bénéficie désormais du bilan des réformes lancées par son prédécesseur Rishi Sunak, comme le relèvement du seuil salarial pour les travailleurs qualifiés ou les restrictions sur le regroupement familial. En clair, cette baisse massive de l'immigration révèle surtout le tournant pris par le Royaume-Uni depuis le Brexit, un tournant qui s'illustre par des mesures de plus en plus conservatrices et restrictives face à l'immigration au fil des gouvernements.
Maïalène Trémollet pour Europe 1. Et puis en Ukraine, à présent, cette attaque massive de drones et de missiles russes tôt ce matin sur la capitale Kiev. Une attaque qui a fait au moins 15 blessés. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, demande par ailleurs des sanctions supplémentaires à l'encontre de la Russie. Une attaque qui intervient le jour même où la Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange de prisonniers. Échange négocié à Istanbul entre les deux parties. C'était il y a 10 jours. Midi 18, on marque une seconde pause dans ce journal avant de parler sport.
Au Théâtre de Lille, samedi 24 et dimanche 25 mai à 18h, Marion, 13 ans pour toujours. Une pièce pour s'occuper des vivants, sobre, poignante et nécessaire. Une adaptation théâtrale avec Stéphane Piochot, Marie-Tessie Wen et Clémence Faure. Quand le théâtre rejoint l'actualité, le spectacle devient indispensable. Réservation sur ticket.nc, rendez-vous au Théâtre de Lille.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Léo Fichou.
Et du rugby à la une de l'actualité sportive, l'Union Bordeaux-Bègles a écrit cette nuit la plus belle page de son histoire, Michael.
L'UBB qui a remporté sa toute première Champions Cup, une victoire 28-20 en finale face aux Anglais de Northampton. Un succès qui s'est dessiné en deuxième période puisque le score était toujours de 20 partout à la pause. Les Girondins ont pu compter une nouvelle fois sur un Damien Penaud des grands soirs, auteur d'un doublé. Il termine meilleur marqueur de la compétition. Un record à la clé, 14 essais inscrits. Il a logiquement été élu meilleur joueur de la saison en Champions Cup. On écoute l'international français Damien Penaud.
Énormément de bonheur, tout le travail de ce groupe qui a été fabuleux. Personne n'a jamais rien lâché. Franchement, les 40 mecs qui composent le groupe sont envoyés comme des chiens les uns pour les autres. Et voilà, je pense qu'on a récompensé au vu de notre campagne et on est forcément très heureux.
Et l'Union Bordeaux-Bègles de Yoram Moefana qui est toujours en course pour réaliser le doublé. Les joueurs de l'UBB sont deuxièmes au classement du top 14 derrière le Stade Toulousain. Et en parlant de top 14, par ailleurs, notez qu'aujourd'hui, le Castres Olympique recevait Clermont en match en retard de la 23e journée. Les Castrés se sont imposés 34-29.
En football maintenant, sans surprise, le Paris Saint-Germain a remporté sans problème la finale de la Coupe de France.
À une semaine de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, les joueurs du PSG n'ont laissé aucune chance à Reims, leur adversaire du jour. Reims déjà engagé de son côté dans les barrages de maintien dans l'élite. Paris l'emporte facilement. 3-0, 2 réalisations signées Barcola, une dernière d'Hakimi. Les Parisiens valident le doublé. Coupe championnat, ils visent désormais ce triplé et inédit, pourquoi pas, la prestigieuse Ligue des Champions. Notez que la victoire en finale de la Coupe de France du PSG, champion de France en titre déjà, libère par ailleurs une nouvelle place européenne via le championnat. L'OL donc jouera finalement la Ligue Europa, tandis que Strasbourg, 7e du dernier championnat de France, accède à la Ligue Conférence. Et puis pendant ce temps, on va prendre des nouvelles d'un ancien Parisien qui lui a trouvé son lot de consolation. Kylian Mbappé a inscrit un doublé avec le Real Madrid en Espagne. 31 buts au total. Le Français devrait finir meilleur buteur du championnat espagnol et peut-être soulier d'or européen. En fait, tout dépendra de la performance notamment de Mohamed Salah demain avec Liverpool face à Crystal Palace en Angleterre.
Après ce point complet sur le football, on passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et la Formule 1 donc avec le Grand Prix de Monaco ce week-end, c'est Lando Norris qui a décroché la pole position. Le Britannique à bord de sa McLaren a réussi le tour parfait en Q3. Il est le premier pilote de l'histoire à passer sous la minute 10 à Monaco. Charles Leclerc sur Ferrari est deuxième, Oscar Piastri troisième. Côté français, c'est le rookie Isaac Hadjar qui signe la meilleure performance tricolore. Il s'élancera de la cinquième position, on l'écoute.
Ah, s'il y avait bien une qualif que je voulais réussir dans l'année, c'est celle-là. Et on l'a fait, donc je suis super content. Hier, on a eu une journée, on a eu 3 free practices compliquées. Et honnêtement, arrivé en qualif, j'avais pas la confiance que je voulais, j'avais encore des doutes. Et je suis monté progressivement en puissance, quoi. Tous les tours, j'arrivais à trouver un peu de performance. Et ça s'est vraiment déclenché en Q2. Et à chaque fois dans le garage, on faisait les bons ajustements pour améliorer la voiture. Et on est toujours allé dans la bonne direction, donc on a vraiment réussi cette qualif.
Isaac Hadjar 5e, Esteban Ocon 8e, Pierre Gasly 18e. Le départ du Grand Prix de Monaco sera donné à minuit pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Sport mécanique toujours, on parle de MotoGP cette fois avec une pole position française en Grande-Bretagne.
Oui, des pilotes tricolores en réussite décidément. Fabio Quartararo a signé le meilleur temps des qualifications et il s'élancera donc en tête ce soir sur le circuit de Silverstone. Le français partagera la première ligne sur la grille de départ avec Alex Marquez et Pecco Bagnaia. Marc Marquez s'élancera de la 4e position, Joan Zarco lui de la 9e place. On écoute Fabio Quartararo à l'issue des qualifications.
Surtout ce matin avec la pluie qu'il y a eu hier soir. Le grip était moins bon. On avait le premier run où on était quand même à 3 dixièmes de marque, mais on a quand même réussi à faire un, à faire un très beau tour. Je suis très satisfait. Il nous manque un petit peu sur le rythme parce qu'on a un bon rythme et le pneu drop énormément. Mais satisfait d'être ici, satisfait d'être rapide et voilà, donc... On est content d'être en pole position.
Et de leur côté, les frères espagnols Marquez ont dominé la sprint race. Alex Marquez qui s'impose devant Marc Marquez. L'italien Fabio Di Gianantonio complète le podium. Joan Zarco, le français, a terminé 5e. Fabio Quartararo, 7e. Le Grand Prix, ce sera à suivre ce soir à partir de 23h, heure de Nouméa.
Et puis un mot de cyclisme pour terminer cette page nationale et internationale. C'est parti dans tous les sens sur la 14e étape du Giro.
Un véritable feu d'artifice, en effet, la victoire qui est revenu à Casper Asgreen. Échappé depuis le début, il s'est imposé en solitaire. Et derrière, il y a eu de la casse. Après une chute à 23 km de l'arrivée, l'Italien Giulio Ciccone, 7e au général avant le départ, a perdu gros, comme d'autres favoris d'ailleurs. Derrière, Isaac Del Toro, qui conserve lui son maillot rose de leader. On retrouve Simon Yates à 1 minute 20, Juan Ayuso à 1 minute 26. Primoz Roglic est 5e à 2 minutes 23 secondes du leader. Le premier français, Nicolas Prudhomme, est 21e à plus de 9 minutes déjà du maillot rose de ce Giro.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Le sport en Calédonie, du football avec la Super League. Les clubs jouent ce week-end la deuxième journée de la compétition. Mais une particularité pour le SC Negeu, l'équipe basée à Lifou doit évoluer cette année à Nouméa.
Le stade de Nassé est fermé pour travaux jusqu'à nouvel ordre. La pelouse est impraticable. Le temps du chantier, l'équipe doit donc s'adapter. Seule solution, jouer les matchs prévus à domicile au stade Noumadélé. À Nouméa donc, comme c'était le cas ce matin pour la rencontre face au CA Saint-Louis. Écoutez Pierre Ikoueo, le président du SC Negeu.
Cette année, on a dû s'organiser. Alors, il faut savoir que voilà, un aller-retour Nifou-Nouméa-Nouméa-Lifou, c'est quand même l'équivalent de 700 000 francs. Et du coup, nous, par rapport à ça, on a dû s'organiser avec nos bénévoles, nos mamans et nos papas, toute la famille qui sont sur les îles, et aussi, bien sûr, Nouméa, pour essayer justement de venir jouer ici sur Nouméa. Je sais que c'est pas facile. Toujours est-il qu'avec le club et les garçons, on s'est fixé comme objectif de au moins justement venir pour essayer de terminer le championnat au mieux. Du coup, le dimanche matin, on devra accueillir tous nos matchs à domicile sur les créneaux d'horaire 9h-10h. Alors, il faut savoir que voilà, l'avion, après, ben voilà, on a un vol après à 1h pour retourner aux îles. Nous, on s'adapte et par rapport à ça, ben voilà, même s'il y a des contraintes, mais il faut savoir s'adapter par rapport à tout ça.
Double peine donc pour les joueurs du SC Negeu qui devront jouer leur match à Nouméa et par ailleurs le dimanche matin afin d'obtenir la disponibilité du stade Noumadélé.
C'est très très difficile parce que voilà, le dimanche matin, comme vous le savez, voilà, le dimanche matin normalement il est privilégié pour les garçons, pour la famille, pour aller à la messe. Voilà, on est très lié justement à la religion et du coup on peut pas par rapport à ça ne pas prendre en compte justement cet aspect là. On a nos créneaux sur Nouméa pour accueillir, ben voilà, nous on fait avec. Le mot d'ordre, voilà, c'est on n'a pas le choix. On s'est instauré sur cette dynamique pour participer à la compétition de la Super League et on y croit fort. J'espère que voilà, toute la famille, les supporters viendront nous supporter tous les dimanches ici à Noumadélé. C'est pas facile parce que voilà, vu les contraintes financières et les contraintes par rapport à les déplacements. Toujours est-il que voilà, nous, on sera présents sur les terrains pour pouvoir justement au mieux jouer sur cette compétition-là.
Il n'y a pas que l'équipe senior qui est concernée, les féminines, mais aussi les moins de 16 ans doivent également s'organiser. Les deux équipes qui ont tout de même réussi à remporter leur match du week-end. Et puis la section futsal du SC Negeu connaîtra elle aussi des problèmes cette année avec là encore une impossibilité de jouer à domicile en raison de travaux dans la salle habituelle. Concernant les résultats cette fois de la deuxième journée de Super League, on le disait donc, le SC Negeu et le CA Saint-Louis qui s'affrontaient ce matin. Les deux équipes ont terminé la rencontre sur un score de parité, un but partout. Hier, Magenta l'a emporté au bout du suspense sur l'Escougnier, 2-1, grâce à deux réalisations inscrites dans les arrêts de jeu. Match nul dans le Nord entre Yengen et Tigasport, un but partout. Et puis Horizon Patho l'a emporté contre Le Mans d'Or sur le score de 4-2.
Et puis pour terminer, un coup d'œil à l'essentiel des résultats du week-end.
Avec notamment hier le Raid de Vaud sur le parcours phare de de 13 km. La victoire est revenue à Alexis Dianou. Une centaine de participants étaient au départ du tennis de table. Le championnat de la province sud par équipe, la briqueterie au classement en première division. Le Mont d'Or est en tête devant l'Entente Païta à la fois, Dimbéa et Magenta. Du taekwondo, la Coupe de Calédonie à la fois. Les victoires notamment de Jason Do en junior, plus de 73 kilos. De Yorick Orezzoli en junior, moins de 63 kilos. De Cameron Pebelier en cadet, moins de 57 kilos. On citera encore Eden Kaya en junior féminine, moins de 55 kilos. Ou encore Sana Gepi en junior, moins de 63 kilos. Dames, une centaine de pratiquants, principalement des jeunes, étaient au rendez-vous. En mer, il y avait une course multi-support organisée par le PC d'Imbéava, la première édition du Lagon 4 Challenge. Une seule course, 4 supports invités. Va, canoë, kayak et stand-up paddle. Même s'il n'y avait pas de stand-up paddle pour cette première édition, une soixantaine de participants étaient tout de même au départ. Et puis, enfin, du badminton, le club de Dimbéa organise ce week-end à Cuccio son tournoi ABCD adulte en simple, en double, double mixte. La compétition qui se poursuit ce dimanche.
Merci beaucoup, Michael. Midi et demi, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour le Flash. Mais avant ça, la suite de vos programmes avec Thierry. À tout à l'heure.